Rachid est algérien. Il vit depuis 50 ans au Maroc. Il y a fait sa vie, fondé une famille. Mais il conserve des liens forts avec son pays d'origine.
Où est-ce qu'on va comme ça? Ces deux peuples frères.
Radio G. 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, nous vous présentons aujourd'hui l'ouvrage intitulé « Le plus petit dénominateur commun » de Pirkko Seisio, que l'on décrit souvent comme l'enfant terrible des lettres finlandaises. Ce récit est une autobiographie. Partant de la mort du père, la narratrice fait parler la petite fille en elle. Les voix de l'enfant et de l'adulte se succèdent, se mêlent, se confondent avec poésie et humour.
Faisait toujours aussi chaud alors qu'on était en septembre. Je m'étais absentée 2 semaines. Les tilleuls du Quai Nord laissaient pendre leurs feuilles poussiéreuses, lasses et mélancoliques. Les fenêtres neuves étaient déjà poisseuses et salies. D'épais plastiques rigides recouvraient l'appartement. Les sièges, les livres, les tangas tibétains et les 4 statuettes de l'orchestre nègre en argile achetées à Stockholm dépassaient entre ces icebergs de plastique comme l'épave du Titanic. On avait remplacé les fenêtres pendant que j'étais en Corée. J'ai sorti les cadeaux de la valise. Égaré dans cet océan de plastique, les bibelots coréens ressemblaient à d'absurdes naufragés. La fièvre montait. J'en souffrais depuis plus d'une semaine. J'ai souri et dit quelque chose, mais sans rapport avec la fièvre. Je devais me remettre dans la peau d'une mère et d'une compagne de vie et d'une fille. C'est seulement le soir que j'ai téléphoné à l'avenue du Ham. J'ai attendu longtemps avant d'obtenir une réponse. Mon père avait une voix fatiguée et abattue encore. « Salut, c'est moi !» Elle avait une voix douce, un peu mièvre. Elle avait commencé à parler à son père comme à un enfant. « Ah, eh bien !» Puis mon père a posé le téléphone sur la table. J'ai pris du calvados, il avait 24 ans d'âge. Je l'avais acheté en rentrant d'un voyage à Paris. Il avait un léger arôme de fumée et encore plus léger de pomme. Il était exactement comme devait être un bon calva, et pourtant, le plaisir n'était pas au rendez-vous. La fièvre me lançait de méchants frissons dans le dos et sur les cuisses. Une minute est passée, puis une autre. J'ai entendu un craquement, un bruit de canne et une toux bien connue. Enfin, voilà, je suis allée prendre une chaise. Alors, tu es rentrée ? Oui, ça fait une heure. Pourquoi mentait-elle ? Ah bon ? Oui. J'ai repris du calvados, il m'a brûlé l'œsophage et imprégné la racine des cheveux d'une sueur soudaine, aussitôt refroidie. Toi et tes voyages ? Tout le temps, hein ? C'était un déplacement professionnel. Elle se justifiait. Curieusement, elle éprouvait le besoin de se justifier. « Bon, et toi » ai-je demandé. « Ben voilà. » « Eh oui, on s'accroche. La vie. C'est comme ça, hein, faut bien vivre. » Elle ondulait en rythme avec les paroles de son père, telle une plante aquatique dans un chaud courant marin. « Faut bien. Ouais. Toute la vie. Eh oui. Ouais. Et Kertu ?» Kertu avait 85 ans, son père l'appelait sa petite amie. Quand elle avait fait la connaissance de Kertu, 20 ans plus tôt, celle-ci était assise dans l'ancien fauteuil de sa mère, qui, après la mort de sa mère, avait vu défiler au moins Aune, Lempi, qui buvait du vermouth et faisait des réussites à 8 heures du matin, et Sivia, dégotée dans les petites annonces de relations épistolaires. Kertu était alors une veuve élégamment conservée qui avalait le pouce café en toussant discrètement. En 10 ans, son père avait initié Kertu au whisky, à la Koskenkorva, à la vodka Smirnoff, au vin de baie, à la bière et au long drink. Il l'emmène tous les soirs. Kertu ? Oui. Où ça ? Je sais pas. La voix de son père s'est emballée. Elle va devoir renoncer à son agréable oscillation fébrile. « Hein ? Où ça ? Là où on emmène les vieux, ils ne disent pas. » J'allume une cigarette. Là encore, ça a un goût de fièvre. « Qui ça ? » ?»« Rémo, son fils. Il vient la chercher tous les soirs en voiture et il l'emmène. Tous les soirs. » « Aïe, aïe, aïe. » « Oui. » Le combiné crépite encore. Le crépitement devient insupportable. « Tu pourrais appeler ?» fait la voix craintive de mon père dans l'appareil. « Où ça ? Là-bas ? » La pause s'éternise péniblement. « Il faut que je prenne ma température, » pense-t-elle. « Bon, je vais appeler, » dis-je, sachant bien que je ne le ferai pas. « C'est ça, appelle !»« Oui. » « Voilà, ils te diront. » « C'est au-dessus de mes forces, » pense-t-elle. « Pas en tant que fille de son père. Pas aujourd'hui. Pas avec la fièvre. » Pourquoi suis-je encore en train de penser à moi, la troisième personne, pense-t-elle. Je passerai te voir demain, dis-je en baissant la voix davantage. Oui, viens. Je serai bienvenue aujourd'hui, mais je crois que j'ai un peu de fièvre. Ah, essaie de te débrouiller. Il faut bien. À demain. Elle lâche le combiné et regarde dans la cour par la fenêtre de la cuisine. Le gardien passe le balai et s'essuie le front. Les fleurs débordent de leur caisse en bois traité, incandescente dans le soleil du soir. Cet été ne finira jamais, pense-t-elle. La nuit, je me suis encore retrouvée rue Fleming. Ma mère rentrait d'un long voyage mais n'avait pas de bagages. Gaie et absente, ma mère était assise dans un fauteuil, vêtue de sa jupe de fête de Bucarest, sur laquelle les gens dansaient main dans la main. Debout à la porte du vestibule, je cherchais un mot, une phrase ou une chanson pour empêcher ma mère de repartir. Un rayon de soleil perçait entre les rideaux, portant des ombres nettes sous les yeux de ma mère et sur son nez pointu. Ma mère souriait toute seule et ne me regardait pas. Puis je me suis réveillée, la fièvre avait un peu baissé. Sur le coup de 9 heures, j'ai appelé mon père. Pas de réponse. À 10 heures, j'ai appelé Rémo. Rémo m'a dit que Kertu avait été emmené en maison de retraite mardi dernier et n'était sûrement pas repassé avenue du Ham depuis. Je suis partie tout de suite pour l'avenue du Ham. Mais dépogeoir en stas, elle s'arrête car une mer d'huile se déploie entre les tilleuls éreintés où une goélette au voile rouge glisse lentement. Elle imprime la goélette dans son esprit. Elle a besoin de la goélette, de la mer et du temps qu'elle prie de suspendre ici son vol pour qu'elle n'ait pas à se rendre avenue du Ham. À ouvrir la porte et à trouver ce qu'elle sait qu'elle va trouver derrière la porte. J'ai sonné à la porte de mon père. Il y a 20 ans, c'était aussi la mienne. Le silence régnait derrière la porte. J'ai ressonné. J'ai regardé par la fente à lettres. La deuxième porte était fermée. J'ai frotté une allumette pour éclairer le seuil obscur. Sur le seuil, il y avait un numéro intact de la Gazette de Helsinki et l'édition dominicale des Nouvelles du Peuple. La cage d'escalier s'est éteinte et elle se tient dans le noir et veut s'enfoncer dans la silencieuse ellipse du temps, être ailleurs. Être ailleurs, loin de l'escalier obscur. Mais j'ai allumé la lumière et tenté de mettre de l'ordre dans mes pensées. C'est une urgence, ai-je tenté de penser. J'ai sonné à la porte des voisins. Je l'ai fait. Personne n'est venu ouvrir. J'ai sonné à d'autres portes du palier de mon père. J'ai sonné. Personne n'est venu ouvrir. Et puis elle est dans l'ascenseur. Après l'ascenseur, il y a la porte de l'immeuble et la longue cour asphaltée. Elle se voit courir sur l'avenue du Ham, fiévreuse et essoufflée. Elle se voit espérer croiser une voiture de police avec un policier qui aurait la clé et saurait lui dire ce qu'elle devrait faire. Elle court vers le commissariat en quête d'une réponse et de la permission d'aller chez son père, chez elle. Elle est à deux pas de la police, de la réponse et de la clé lorsque j'ai croisé deux hommes sous, bras dessus, bras dessous. La rumeur de l'avenue du Ham résonnait dans l'indifférence sans se soucier de moi. Et l'un des ivrognes était un vieil ami d'enfance. J'ai eu peur que mon ami d'enfance me pose des questions sur mon père, aussi me suis-je précipité dans un restaurant chinois. J'ai plongé sur une banquette et je me suis trouvé bloqué par le menu qu'un serveur chinois me fichait dans la main. « Bonjour !» Et elle se voit assise sur la banquette du restaurant chinois en train de consulter la carte. « Maintenant je suis ridicule, » pense-t-elle. « Maintenant, je dois faire quelque chose, » pense-t-elle. « C'est un cauchemar, » pense-t-elle. « C'est une comédie de Woody Allen, » pense-t-elle. « Je dois mettre de l'ordre dans mes pensées, » pense-t-elle. Et après m'être levée en m'excusant auprès du serveur ébahi, je file dans la rue au pas de course et m'arrête au métro. J'achète un billet. Je ne me rappelle pas où je vais, mais je me rappelle que j'ai de la fièvre, beaucoup de fièvre. Je me rappelle que mon père est derrière deux portes, incapable d'aller ramasser la Gazette de Helsinki, et les nouvelles du peuple sur le seuil. Et, pourtant, elle se tient dans l'ombre d'un automate et laisse le brouhaha du passage souterrain la conduire hors du temps et de l'espace, loin de tout. Une tzigane coince sa jupe dans l'escalator, rêveuse et contente. Elle entend les pas précipités des gardiens du métro, le grincement de l'escalator arrêté en urgence. Elle voit le flux incessant et bruyant des familles pressées, touristes japonais, poivrons tranquilles, retraités à chapeau blanc, musulmanes voilés, somaliens, sénégalais, enfants finlandais, hargneux, cramoisis sous le soleil. Elle s'imagine au Musée national de Corée du Sud, où une poupée exposée dans une vitrine monte un cheval au grand galop, coiffé d'un casque d'or dont elle comprend maintenant que les ailerons imitaient des flammes, avant de se rappeler qu'elle est là où elle est. « Je dois mettre de l'ordre dans mes pensées, » pense-t-elle, en s'arrachant au délire onirique de la fièvre. Il reste encore le trajet entre l'automate et le kiosque du passage souterrain. « Je dois acheter de quoi écrire, » pense-t-elle, et elle énonce sa pensée à voix haute à la vendeuse. La vendeuse l'observe, étonnée. « J'ai dit une bêtise, » pense-t-elle, mais la vendeuse sourit. « Crayon ou stylo bille ?» « Maintenant, je dois décider, » pense-t-elle affolée. « Crayon, » dit-elle au pif. « Malheureusement, je n'en ai pas. » Et la vendeuse sourit de plus belle. La vendeuse est une fille douce, plantureuse, dont le parler dénote un vestige d'accent de Savonie. « Et maintenant, j'aurais envie de rester ici, d'enfoncer ma tête dans la vallée des doux seins palpitants de la vendeuse et de me lamenter sur mon sort, sur la difficulté d'être une mère, une compagne et une fille en cet instant, mais elle arrive encore à lutter. Elle est obligée. Alors bille ! Je regrette, je n'en ai pas non plus. Maintenant, elle se voit plantée, là, désemparée dans l'ombre des seins palpitants et du sourire savonien, mais elle n'arrive plus à se soustraire à l'oppression du temps et de l'espace. Merde alors, s'entend-elle dire calmement. Enfin, dans tous les kiosques, on doit bien pouvoir trouver un stylo. Et son regard tombe sur un stylo à billes qui traîne en toute innocence sur un bloc de papier quadrillé. « Voilà un stylo !» s'entend-elle dire d'une voix triomphante. « C'est le stylo du personnel !» et un courant frais, légèrement menaçant, passe dans la chaleur submergente de la voie savonienne. Je le prends, s'entend-elle dire. Et puis, je dois courir sur l'avenue du Ham en sens inverse et me rappeler pourquoi il était si important que j'ai de quoi écrire. À la porte de la cage d'escalier, je me souviens. Je dois appeler le gardien de l'immeuble. Je dois aller dans le hall et regarder le numéro de téléphone du gardien sur le tableau, aller au kiosque, appeler le gardien et obtenir la clé de la porte derrière laquelle se trouve mon père, vivant ou mort. Le gardien ouvre la porte. « Eh bien, dis-je, la salle de bain est ouverte. Mon père gît en sous-vêtements sur le sol de la salle de bain, le tuyau de vidange du lave-linge serré sous ses ongles blancs. Mon père a la joue bleue. Le gardien se tient sur le paillasson. Je me tiens à l'entrée de la salle de bain. « Bon, dit le gardien, je crois qu'on n'a plus besoin de moi. » « En effet, dis-je. Et avant d'avoir la permission d'aller auprès de mon père, je cherche dans ma poche un billet de 100 marques et le stylo du personnel du kiosque et je m'acquitte de l'ouverture de la porte. Le gardien sort, la porte se referme et puis le temps refuse de bouger. Maintenant, c'est elle qui se tient sur le paillasson sans savoir que faire. D'abord, elle bâille et pense à sa fièvre. Puis elle essuie le téléphone avec la main et elle pénètre enfin dans la salle de bain. Les paupières de son père tressaillent. « Salut, dit-elle. » Elle ne sait pas où mettre le stylo à billes qui passe machinalement d'une main à l'autre. Le stylo lui semble sale. C'est maintenant un objet poisseux, abîmé par une sueur froide. Les lèvres de son père remuent, et après un moment d'hésitation, elle approche son oreille de la bouche édentée aux lèvres bleuâtres. « Alors, tu es venu, finalement. »
Slår och solen börjar dala. Vinden drar och molnet far bort över åsen galla. Aspen bar mig löpa, löpa, linden bar mig fylla. Björken lovade mig fast när kvällan skulle bliva. Stjärna, welcome in i Vissebord i fjällen. Om jag ej kan finna dig så får jag dig stigvällen. Aspen kan lova dig mig fast när kvällen skulle bliva.
Je suis enfant unique. Il faudra longtemps avant que je le remarque, car il y a beaucoup de monde autour de moi. Il y a maman. Maman est toujours à la maison, jusqu'au jour où maman deviendra vendeuse dans l'épicerie coloniale d'Iria Markkanen, et moi, élève de maternelle. Maman a un chemisier blanc en dentelle, même en semaine, avec des boutons beiges. En général, maman écoute la radio ou chante des chants de lutte venus de Russie, car dans sa jeunesse, maman était membre de l'ensemble vocal de l'association Finlande-URSS. Sirpakka était membre du même ensemble. C'est pourquoi maman laisse entrer Sirpakka, alors que Sirpakka est toujours saoul, ce qui est inconvenant pour une femme. Sirpakka est originaire du Rvarkaus, comme maman. Mais Sirpakka a mal tourné, contrairement à maman. Sirpakka apporte à maman un bouquet de fleurs, mais quand maman va dans la kitchenette pour ouvrir le paquet, maman y trouve aussi une bouteille de Koskenkorva, une bouteille ouverte. Sirpakka finit la bouteille toute seule, pendant que maman est assise sur le lit métallique, tendu, et surveille l'heure pour que Sirpakka s'en aille avant que papa rentre du bureau. Papa appelle Sirpakka la vieille godasse. Papa a des épais cheveux bouclés et un gilet de laine sur lequel mamie a tricoté des élans. Papa travaille au bureau de l'association Finlande-URSS. Le week-end, papa part projeter des films soviétiques aux quatre coins de la Finlande pour que les Finlandais puissent être correctement informés sur les accomplissements du socialisme et ces choses-là. Tata Ulla vient beaucoup chez nous. Tata Ulla a un chic manteau vert en fausse fourrure, toute douce. La toque noire en velours de Tata Ulla est sertie d'étoiles dorées. Tata Ulla aussi préfère venir chez nous quand papa n'est pas là. Papa et Tata Ulla s'entendent mal, car Tata Ulla a voté pour le candidat de la coalition aux législatives parce que le candidat avait de beaux yeux bruns. Tata Ulla, c'est la grande sœur de maman. Nous avons par ailleurs beaucoup d'autres visiteurs et la plupart ne voient pas de problème à ce que papa soit à la maison. Il y a beaucoup de monde aux réunions. Les invités aux réunions sont ennuyeux car pendant les réunions, notre seule table est utilisée pour écrire le procès-verbal. Et pendant la réunion, je dois jouer toute seule, sans faire de bruit. Pendant les réunions, je suis l'unique enfant présent. Mais cette affaire d'enfant unique ne veut pas dire ça. C'est une chose beaucoup plus grave et compliquée. Quand les anciens membres de l'ensemble viennent en visite avec leurs proches, ou bien le club des As de la couture, ou la famille de papa, il y a beaucoup d'enfants. Pourtant, je reste enfant unique. Être enfant unique, par exemple, c'est être un objet de jalousie dans la cour, parce qu'on va se promener le dimanche, ou parce que je n'ai pas besoin de me lever à 8 heures pour l'école du dimanche, car papa, maman et moi ne croyons pas à l'école du dimanche. J'ai tout ce que je veux, et je n'ai pas besoin de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, dit-on dans la cour. Et par conséquent, à l'âge adulte, je risque de devenir une personne égoïste et intéressée. C'est peut-être même inévitable. On dit que maman est jeune et belle, et je suis bien d'accord. Mais ensuite, on dit que sa jeunesse et sa beauté viennent du fait que maman n'a daigné faire qu'un enfant unique. On dit que papa est un bel homme et un honnête père de famille qui n'a pas l'air de toucher à la bouteille. Je m'en félicite, mais ensuite on laisse entendre que papa ne saurait pas se débrouiller devant le fait accompli en présence de vrais hommes, par exemple dans une bagarre, par exemple avec les pères pochards qui battent leur nana et leur morveux le samedi après le sauna parce qu'ils ont été à la guerre et ont reçu des éclats d'obus dans la tête. En rentrant à la maison, je pose des questions sur cette histoire d'éclats d'obus et de guerre. Après quoi, je retourne expliquer que mon père a servi dans l'artillerie côtière du Suomenlinna pendant la guerre, mais en est revenu indemne grâce à Staline et parce qu'il était plus important pour l'Union soviétique de gagner la guerre mondiale que la misérable Finlande. Mais dans la cour, j'entends dire que l'Union soviétique n'a pas gagné la guerre contre la Finlande, s'il vous plaît, mais elle l'a perdue, et que ces histoires d'artillerie n'existent pas. Et ainsi, je suis toujours une enfant unique, dont le père n'a pas été sur la route de Rath, ni même à Summa. Beaucoup plus tard, elle apprendra que son père aussi est enfant unique. Mais avant cela, elle a d'abord dû avaler l'information bouleversante que son père a été un enfant. Et elle trouve absolument inconcevable que sa mamie ne soit pas une mamie de naissance, que sa mamie ait été et soit toujours une mère, la mère de sa mère. Avant de devenir mamie et mère, sa mamie aussi a été un enfant et la fille de quelqu'un. Sur la photo de classe, prise à l'école de Kallio, sa mamie ressemble pourtant bien à sa mamie, si ce n'est petite et jeune, avec son gros nez et son col en dentelle. Mais le bonhomme obèse avec des chaussures montantes, chauve et boudeur, assis sur le canapé sur la photo, ça ne peut pas être son père, car son père est svelte, énergique et frisé. Dans l'album de sa mamie, il y a des photos d'une petite fille avec un nœud sur la tête et quelque chose de si flottant sur les jambes qu'elle ne sait pas très bien s'il s'agit d'une jupe ou d'un pantalon. Et quand sa mamie lui dit que l'enfant sur la photo n'est autre que son père, elle s'étouffe de stupéfaction. Car je ne sais pas encore que mamie et papy ont eu une petite fille avant la naissance de papa, morte à l'âge de 2 ans, à la place de laquelle papa a dû porter un nœud sur la tête et une robe pendant toute sa petite enfance. Et ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard qu'elle apprendra que son père et sa mère ont eu un fils avant sa naissance, mort à l'âge de 4 jours. Je voudrais être un garçon. Pendant longtemps, ça ne pose pas problème. Je peux faire pipi debout, quand personne ne me voit, même si c'est compliqué, si ça éclabousse. Mes cheveux sont si fins qu'on les coupe très courts. Et quand j'apprends à siffler, à dire des gros mots, à cracher, on me prend souvent pour un garçon. Surtout l'été, quand je porte une culotte courte. J'ai horreur des filles. D'ailleurs, je n'en connais pas. Quand on joue au papa et à la maman, mes meilleurs amis, Alf, Reska, Risto, acceptent d'être la mère. Moi, je suis le père. Je pars travailler le matin, projeter des films soviétiques, et je rentre du travail quand Reska, Risto ou Alf a préparé à manger. Quand je serai grande, je voudrais être père. Tata Ulla avoue que Tata Ulla aussi dans son enfance voulait être un garçon. Mais maman et mamie s'obstinent à faire des papillotes dans mes cheveux courts et à m'embêter avec des tabliers à midonnées ou des robes à fleurs brodées de franges. Papa suit une formation par correspondance pour être technico-commercial. Quand je serai grande, papa veut que je devienne une femme égale aux hommes, ingénieur des mines, doctoresse sciences économiques ou femme d'affaires implacable, comme une certaine entrepreneuse forestière dénommée Ella Wioliszewski, une personne aux idées de gauche dont papa conduit la BMW jusqu'au jour où papa la lui rachète. Papy trouve qu'il ne faut pas embêter l'enfant. Si l'enfant veut être un garçon, alors l'enfant est un garçon. C'est papy qui m'a acheté cette casquette verte, celle avec un avion jaune en plastique sur le front. J'en suis certaine. Je voudrais être Elena, mais je ne pourrais jamais devenir Elena parce que je suis brune et sans fossette de nature. Mais Elena n'a pas de casquette verte, moi si. Un beau jour, la casquette est là, sur la table, entre la casserole de foie en sauce et l'assiette de pain. La visière est surmontée d'un avion jaune en plastique authentique. C'est une casquette masculine, ça ne fait aucun doute. Et c'est la mienne, car trop petite pour aller à papa et beaucoup trop masculine pour être au goût de maman. J'avais envie d'une casquette depuis longtemps, aussi longtemps qu'une culotte courte en cuir, un fusil à amorce, une arbalète, un pistolet à eau et une voiture à pédales que je n'aurais jamais. Mais la casquette est à moi. La casquette est pour moi. Je la mets sur ma tête et je me regarde dans le miroir de l'entrée. C'est une erreur, car quelque chose alors se passe en elle. Elle le voit au fait que sa mère ne dit rien, ni son père, ni son papy.